gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
C'est mieux. Bonsoir. Alors, quand on, amis auditrices et auditeurs, la table des micros était éteinte. Donc, c'est pour ça que vous ne nous avez pas entendu. Je recommence. Bonsoir et bienvenue dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, comme tous les dimanches de 22 à 23 heures. Avec ce soir autour de la table Jean-Yves.
Bonsoir.
À la technique et Clara.
Bonsoir.
Il faut appuyer sur le bouton, Clara.
Je vais tout dire.
Et Fab, évidemment.
Et oui, bonsoir. Voilà. Alors ce soir, c'est une causerie un peu habituelle, on va dire, avec des sujets toujours aussi funky. Et on va aussi vous rappeler que si vous voulez nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com ou alors vous pouvez aller sur les blogs de Radio Canu et chercher La Causerie ou alors aller à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et si vous voulez communiquer avec nous, c'est mieux de le faire par les blogs ou encore mieux par l'adresse mail. Donc je la rappelle, lacauseriecanu@gmail.com. Parce qu'on a aussi un espace Facebook, mais on l'utilise assez peu. En fait, on l'utilise surtout pour promouvoir cette sublime émission que vous écoutez ce soir. Voilà. Oui, on se la pète un peu.
Tu te la pètes un peu.
Oui, bon, ça va. Et puis, on va saluer celles et ceux qui ne sont pas autour de la table ce soir et qui se reconnaîtront et à qui on fait des bisous. Voilà.
C'est ça.
Et on va commencer cette émission en faisant un petit focus sur deux points d'actualité assez important du moment. Donc, Jean-Yves, on va commencer par toi. Tu voulais nous parler de la Turquie.
Oui, effectivement. On a eu des infos venant en fait du mouvement anarchiste en fait, enfin du mouvement anarchiste DAF qui nous a fait. Merci pour le son. Qui nous a transmis des infos. Alors effectivement, les infos sont toutes fraîches venant de Turquie. Ça se veut pas un bilan clair, net, précis sur tout ce qui a pu entourer ce putsch ou ce putsch avorté. Donc voilà. Donc je vous lis les infos qu'on a reçues hier soir. Donc dans la nuit du 15 au 16, plusieurs officiers militaires, certains d'entre eux de haut gradé, ont tenté un coup d'État en Turquie. Les affrontements ont continué jusqu'au petit matin. Ces soldats ont prétendu être membres d'un groupe qui est lié à une communauté religieuse, Fethullah Gulen Organisation. Ce groupe est l'un des groupes fondateurs de l'AKP, le parti majoritaire au Parlement et qui détient le pouvoir politique depuis 2001. C'est le parti de M. Erdogan. Il y a plusieurs années, une scission s'est produite entre l'AKP et cette organisation. Depuis ce jour-là, le gouvernement a fait de nombreuses purges dans les organes de presse, les grandes entreprises, les soldats et les bureaucrates qui étaient liés à cette organisation. Donc, il semble que ce soit un affrontement entre deux pouvoirs politiques frères pour obtenir la tête de la Turquie. Les soldats ont essayé de garder les positions militaires stratégiques et zones administratives de la capitale. Ils ont bombardé plusieurs fois le Parlement, beaucoup d'affrontements avec les forces de police qui sont directement sous le contrôle de la présidence de la République, donc de Erdogan. Environ 100 soldats qui participaient au coup d'État ont été tués et autour de 70 à 80 policiers tués dans ces affrontements. Je rajoute, ça c'est une info de nous, c'est le bilan provisoire pour l'instant, c'est 220 morts et plusieurs milliers de blessés. Je continue le courrier de nos camarades anarchistes turcs. La chose importante, c'est qu'Erdogan a fait un appel à ses partisans à être sur les places et dans la rue. Des milliers de personnes étaient sur les places de beaucoup de villes. Alors, il cherche à mobiliser le pouvoir civil, dont il a souligné qu'ils sont du côté de la démocratie, entre guillemets, démocratie. Il parle encore qu'il y aura d'autres secousses et fait un appel au peuple d'être dans les rues pour apporter son soutien à l'AKP. Il est un peu tôt pour analyser la situation, mais maintenant, cela semble être une lutte de pouvoir entre deux acteurs politiques. La principale opposition dans le Parlement et d'autres partis dans le Parlement ont soutenu l'AKP contre le coup d'État. Et pour l'opposition sociale, c'est une situation inattendue à laquelle elle a dû réagir. Pour les gens qui sont sur l'opposition sociale progressiste, nous serons vraisemblablement confrontés à un État plus puissant qui est, entre guillemets, démocratiquement légitime après l'échec de ce coup d'État militaire. Nous allons partager notre point de vue de manière plus détaillée avec Solidarité. C'est signé par les membres du groupe DAF, qui est, je le rappelle, un groupe anarchiste turc. Voilà, donc après, encore une fois, on n'était pas là pour spéculer, mais on était plutôt content de pouvoir quand même vous partager directement une voix qui vient des camarades turcs.
On en a eu une autre d'une amie qui est en Turquie en ce moment et qui nous a confirmé tout ce qui était dans le courrier, qui nous a effectivement dit que c'était bien une faction islamiste, elle aussi, parce que je vous rappelle que Erdogan fait partie des conservateurs islamistes, qui, c'est vraiment une guerre entre deux factions, et qu'on est très loin, contrairement à ce que certains ont pu laisser entendre, d'un coup d'État kémaliste, qui s'entendrait d'être dans la veine de Mustafa Kemal, qui était le père fondateur de la Turquie laïque, et qu'on est plutôt sur un coup d'État à tendance autoritaire forte et très forte, et à volonté d'imposer une autre vision de la Turquie que celle qui est aujourd'hui admise dans le folklore, parce qu'en fait on comprend que sur le terrain et pour les Turcs, c'est loin d'être aussi idyllique que ce qu'on nous vend très souvent en Europe.
C'est certain. Et puis après, moi j'ai vu quelques images, on a quand même pas mal, on peut voir quelques personnes quand même faire ce signe.
Le symbole des loups gris, qui est quand même l'extrême droite nationaliste turque, ceux qui d'ailleurs militent le plus pour interdire qu'on reconnaisse le génocide arménien, par exemple. Donc c'est pas non plus. On voit bien qu'on n'est pas dans une volonté de soustraire Erdogan, qui est un très très autoritaire et presque dictateur à la tête de la Turquie, mais bien dans juste une lutte de pouvoir pour savoir qui va être le dictateur en chef, en fait.
C'est un peu ça. Donc après, on espère vraiment peut-être pouvoir vous filer d'autres infos encore complémentaires la semaine prochaine, mais voilà, pour l'instant effectivement c'est ça, et que encore une fois, faut essayer de prendre une distance. Alors après, c'est toujours compliqué, mais comme quand il se passe des choses en France, essayer de prendre une distance un petit peu pour essayer de voir.
Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis.
C'est exactement ça. Donc voilà. Donc après, mais après, c'est pas non plus. C'est très compliqué. On a vu. Moi, j'ai vu un témoignage d'un Turc qui était absolument pas du tout un pro pour Erdogan. Vraiment pas pro Erdogan, de loin pas. C'était un progressiste. Et qui lui était dans la rue aussi, et qui disait je suis dans la rue, c'est pas du tout parce que je soutiens Erdogan, mais parce que une prise de pouvoir militaire et autoritaire, ça me plaît pas plus.
Il résout rien, en fait.
C'est ça le truc. En sachant que pour les Turcs aussi, l'armée,
parce que c'est la Turquie a une des armées les plus disciplinées du monde et les mieux entraînées du monde.
Et qui a eu une dictature militaire aussi.
Dictature militaire dans le passé. Juste quand même à dire que ce qu'on voit aujourd'hui quand même émerger, c'est qu'Erdogan se sort renforcé de cet échec de coup d'État, qu'il va jouer, qu'il surfe dessus, et qu'aujourd'hui il en est même à dire qu'il risque de remettre la peine de mort pour pouvoir purger les gens. Il a quand même fait arrêter plus de 2700 juges, plus de 3500 militaires. A priori, ça continue. On n'arrive même plus à connaître les chiffres exacts des nombres de personnes qui ont été arrêtées ou démis de leurs fonctions. Donc voilà, on est dans un virage pour la Turquie qui n'est pas très joyeux, et on apportera des informations autant qu'on peut, et puis on essaiera de soutenir autant qu'on peut, de loin malheureusement, ceux qui sur place essayent de faire en sorte que ce virage ne parte pas trop vers l'horreur, ou voire même reparte dans l'autre sens.
Voilà pour cette info de Turquie. On voulait peut-être causer un petit peu avant de partir pour un premier titre de musique, parler un petit peu des attentats qu'il y a eu, enfin de l'attentat qu'il y a eu en France. Alors est-ce qu'on l'appelle attentat ou pas attentat, en tout cas
quoi que ce soit, de toute façon c'est extrêmement violent. On rappelle 84 ou 85 morts à l'heure qu'il est à Nice. Donc bien sûr, comme toujours, nos pensées vont vers les victimes d'actes de ce genre-là, où qu'ils soient dans le monde. D'ailleurs, à la causerie, on ne s'est jamais limité aux frontières hexagonales. Mais ce n'est pas le problème pour moi de faire dans le pathos, parce que ça ne changera pas grand-chose. Par contre, on se rend bien compte, c'est ce dont je voulais parler, qu'on est aujourd'hui vraiment à la veille de l'élection de 2017. Parce que la récupération politique, ça y va, ça y va, ça y va. Alors, on va donner deux exemples qui nous ont un peu choqués, pas choqués, mais où on s'est dit, alors là ils y vont.
C'est-à-dire que oui, c'est là qu'on peut se rendre compte de cette surenchère, parce que là on est vraiment dans ce jeu-là.
Ouais.
C'est-à-dire que je serai le plus protecteur que le déprotecteur.
Ouais, hein. C'est bien n'importe quoi.
Donc on a eu quand même une proposition, alors je ne sais plus qui c'est, je suis désolé, j'ai oublié son nom, qui proposait peut-être éventuellement d'équiper... En tout cas, cette personne a fait la remarque.
Henri Guénaud, tu veux dire ?
C'était Henri Guénaud.
Oui, avec les lances.
Ça. Et donc, Henri Guénaud a proposé peut-être que si les policiers étaient équipés de lance-roquettes.
Les militaires, il a bien dit. Les militaires
étaient équipés d'un lance-roquettes, peut-être que. On pouvait éviter ce genre de choses.
Arrêter les camions.
Alors, je ne sais pas jusqu'où on va aller dans la surenchère.
Ce qu'il faut voir, il y a deux choses dans cette phrase qui glace le sang. D'abord, c'est l'idée de mettre des lance-roquettes au milieu des villes.
Oui, c'est ça.
Et la deuxième chose, c'est que Rigano, il a déjà franchi le pas que l'armée, en fait, était donc en opération sur le sol français, mais au sens opérationnel. C'est-à-dire, elle tire, vu que, elle n'est plus dans simplement la protection vigipiratesque.
Elle est dans l'opération de guerre.
Elle est dans l'opération de guerre. C'est-à-dire que pour Rigano, ce serait normal qu'un militaire sorte un lance-roquettes tire sur un camion. Voilà, tout va bien.
Et ce qu'il faut peut-être rappeler à Monsieur Guénaud, c'est que ce genre d'arme, en fait,
c'est pas très fiable.
C'est pas très fiable, quoi. Et puis, ça pète, quoi. Voilà. Donc, il y aura toujours plus de gens qui mourront que s'il n'y avait rien eu, en fait.
Tout à fait.
Donc, voilà. Enfin, c'est.
Et puis, c'est toujours pareil. C'est une façon de ne pas s'interroger du pourquoi on en est là et de continuer encore et toujours à faire dans la surenchère pour aller toujours plus loin. Et la deuxième personne qui, malheureusement, malgré lui, est devenue une espèce de vedette, c'est l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, qui, il y a exactement un mois, à peu près, un an en arrière, expliquait que si la ville de Paris était équipée d'autant de caméras de vidéosurveillance par habitant que la mairie de Nice, les attentats du Bataclan ne se seraient pas passés comme ça. Voilà. Et que les caméras empêchaient les attentats. Et ben, malheureusement, et j'aurais préféré ne pas faire cette mauvaise blague, ça marche pas. Et on en a malheureusement la preuve. Donc il va falloir un peu arrêter les conneries. C'est pas le sursécuritaire qui nous sauvera tous. C'est sûrement pas un état d'urgence permanent. C'est encore moins des atteintes à nos libertés. C'est beaucoup plus complexe que cela. Ça va beaucoup plus loin. Ça implique aussi de repenser nos rapports au monde, en tant que pays, je parle. Ça implique de ne pas aller serrer la main de l'Arabie Saoudite et du Qatar un matin, et l'autre de dire c'est pas bien des gens qui financent le terrorisme, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a un lien direct. Et ça, c'est établi, donc faut un peu arrêter de se mettre le doigt dans l'œil.
Et puis après, c'est compliqué d'entretenir des amitiés avec Monsieur Dassault, quand même, un grand fabricant d'armes de guerre française.
Exactement, c'est que la France est un énorme pourvoyeur d'armes dans le monde, donc c'est aussi très faux cul de notre part. Et puis, accessoirement, il faudrait aussi des fois un petit peu revenir sur notre présent et notre passé, que ce soit les guerres coloniales menées dans le passé ou que ce soit les guerres appropriatrices que l'on mène aujourd'hui, parce qu'elles ont des conséquences, qu'on le veuille ou non, et que si on continue à faire comme si ça n'en avait pas, on continuera à ne pas comprendre pourquoi il y a des gens qui sont assez flingués de la tête pour aller tuer des innocentes et des innocents à coups de camion, à coups de kalachnikov ou à coups de ce que vous voulez, quitte à y laisser leur vie, parce qu'encore une fois, ces personnes-là sont dans le fanatisme au sens premier du terme.
On en parlait la semaine dernière.
Et j'en parlais la semaine dernière avec les gens qui rentraient dans les Gay Pride. Et en fait, on n'est plus dans la logique. Il faut arrêter de chercher de la logique chez ces personnes-là. On est dans l'abnégation de soi, au sens très morbide du terme, c'est-à-dire que mourir pour leurs idées, eux, ils trouvent ça cool. Nous, on écoute Georges Brassens, c'est pour ça qu'on trouve pas ça cool.
C'est ça.
Parce que mourir pour des idées d'accord, mais de brûlante. Donc voilà, c'est pour ça que, on en est là. Et il me semblait important quand même de souligner qu'on était bien rentré dans la campagne de 2017.
C'est ça.
Et je passe de côté les rototos nauséabonds des Le Pen et Philippot. C'est encore pire, mais j'avais pas envie d'en parler ce soir.
Oui. Voilà. Bah, de toute façon, là, c'est un boulevard pour les théories.
Ah, c'est festival.
Pour les théories les plus dégueulasses. Eh bien, on va peut-être s'écouter un petit titre avant de continuer avec d'autres sujets.
Eh oui. Bien dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu, sur radiocanu.org. Et c'était Turkish Eggs de Trailer Trash Traces. Voilà.
Très bien.
C'est bien.
Oui, très planant. Et bah Fab, tu voulais nous parler d'un article, enfin c'est d'une enquête bien plus large que juste un article en fait, qui est autour du regret d'être mère.
Voilà, tout à fait. Ça peut paraître comme ça étonnant, mais il y a une sociologue israélienne qui s'est posé des questions sur le fait qu'on n'interrogeait jamais la notion de regret vis-à-vis des mères. C'est-à-dire, est-ce que des femmes regrettent d'être maman ? Alors, on va le dire tout de suite, parce qu'on va désamorcer tout de suite cet aspect-là, sinon on va y passer la nuit. Ces personnes n'ont jamais dit qu'elles n'aimaient pas leurs enfants, hein, parce qu'elles aiment leurs enfants, elles les ont élevés ou elles les élèvent actuellement. Simplement, elles expriment un regret du fait d'être maman. C'est-à-dire qu'elles trouvent que, ben, elles sont mamans, non pas parce qu'elles voulaient l'être, mais elles sont mamans parce qu'elles ont eu une certaine pression sur les épaules pour être maman. Et qu'au final, eh ben, on leur a pas laissé vraiment le droit à l'expression, à dire, bah, moi, en fait, j'ai pas envie d'être maman. Et qu'au contraire, on leur a toujours dit, tu sais, pour être une vraie femme, il va falloir être maman. Donc, Orna Donat, elle a donc posé la question toute simple à ces personnes. Si vous pouviez revenir en arrière dans le temps, avec la connaissance et l'expérience que vous avez aujourd'hui, seriez-vous une mère ? Donc, la question, elle est très simple, très pragmatique. Elle n'est pas à entrée multiple, hein, comme on peut le voir. Elle entraîne en fait un oui ou un non, parce qu'elle est obligée, enfin, c'est fait pour qu'on se positionne et surtout qu'on soit obligé d'argumenter, parce que dans la question, on rentre l'idée de connaissance et d'expérience. Donc, quand on dit non, il faut pouvoir dire bah non, parce que voilà. Donc, c'est vraiment, on est dans la sociologie. Hein. Voilà. Et en fait, eh ben, elle a été très étonnée parce qu'elle a posé cette question à 23 femmes âgées de 25 à 75 ans. Qui en fait ont répondu à une pré-enquête, c'est-à-dire qu'elle avait dit je m'interroge sur le fait d'être maman, est-ce que c'est le panard ou pas, j'aimerais bien vous poser une question, voilà, elle a fait ça via les réseaux sociaux et via les réseaux universitaires, et 23, donc elle a eu 23 femmes qui sont venues, elle pensait vraiment avoir des réponses diverses et variées, mais elle a eu 23 noms en fait. Donc elle s'est dit, il y a quand même une question qu'on ne pose jamais. Alors attention, elle le dit tout de suite, c'est ce qu'on appelle un biais sociologique, c'est-à-dire que comme elle disait au départ qu'elle se posait des questions sur le fait d'être mère, c'est plutôt les gens qui ont envie de dire ce qui n'est pas dans la majorité qui se présentent. Vous voyez, c'est un peu logique. C'est pour ça qu'elle est tout à fait consciente du fait d'avoir eu 23 noms, ça lui paraît logique. Voilà. Mais elle a un peu creusé. Donc elle avait par exemple Tirza, qui a 57 ans et qui est divorcée, qui a deux enfants et qui est grand-mère. Donc elle a dit, ben moi je n'ai jamais voulu être mère. Elle dit en fait même des mots assez durs, elle dit c'est le cauchemar de ma vie. Cela n'ajoute rien en dehors d'une perpétuelle inquiétude et de difficultés. Et elle dit j'ai vu immédiatement que ce n'était pas pour moi. Voilà. Et pourtant, donc la sociologue lui demande ben, pourquoi vous avez fait un deuxième enfant, et elle répond parce que mon mari en voulait un deuxième. Vous voyez, c'est, donc on voit la logique qui est derrière. Donc, Atalia, elle a 45 ans, elle a trois enfants et elle a divorcé. Et en fait, les trois enfants, bah, elle a laissé la garde au père parce qu'elle, en fait, elle dit, je suis pas capable d'être mère. Et c'est pour moi un poids permanent sur mon âme. C'est-à-dire que elle n'arrive pas à être mère, elle n'arrive pas à gérer le fait d'être maman. Et donc, bah, elle a préféré que les enfants soient, bah, éduqués par quelqu'un qui avait envie d'être père, lui, pour le coup, plutôt que de mal faire les choses. Et donc, en fait, l'étude qui s'appelle Regretting Motherhood, a Sociopolitical Analysis, voilà, elle est en anglais parce qu'elle n'est pas sortie en français encore, elle a été publiée à l'hiver 2015. Et elle a fait un peu le tour du monde parce qu'elle a un peu surpris. Parce que c'est un peu la première fois que des gens posaient la question, franchement, est-ce que vous regrettez d'être maman? Oui, c'est un truc qu'on ne dit jamais. C'est un grand tabou, voilà, de notre société. Et donc, en creusant un peu, Orna Donat, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait une énorme exhortation des femmes à se taire. C'est-à-dire qu'en gros, toute la société, elle dit, est construite pour que la maternité et le fait d'être maman soient la plus belle chose qui arrive à une femme au monde, et on n'a pas le droit de dire bah en fait je kiffe pas ma race. Donc c'est interdit. Donc elle dit au final c'est assez impressionnant de voir à quel point cette question elle est taboue quasiment dans le monde entier. D'ailleurs elle le dit, ça a été publié en Allemagne, en France, en Italie, au Kazakhstan, dans les pays nordiques, en Angleterre, en Suisse, en Inde, et en fait partout, cette question pose un problème. C'est-à-dire qu'elle dit il n'y a pas de société où on dirait en fait finalement oui, on a le droit de regretter. Alors attention, elle le dit bien, et les femmes qui ont été interrogées le disent aussi, ça ne veut pas dire qu'on veut abandonner ses enfants ou les mettre au congélateur, parce que ça c'est ce qui a été dit beaucoup par des imbéciles, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est l'aspect facile et rapide.
Le défouloir.
C'est le défouloir, et encore elle en parle d'ailleurs de cet aspect défouloir. Non, c'est simplement des mères qui disent si j'avais su, si vraiment j'avais pu prendre le recul, je l'aurais pas fait. Voilà, et honnêtement, en toute honnêteté, j'y trouve pas personnellement un accomplissement merveilleux, voilà. Même si elles le disent, il y a des moments de bonheur, il y a des moments où on est fier de ses enfants, il y a des moments, ça n'empêche pas, mais bah, c'est un truc qui finalement n'est pas fait pour elles, entre guillemets. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, en fait, ça a ouvert un petit peu une voie auquel la sociologue ne s'attendait pas quand elle a fait faire la traduction. Et il y a carrément un hashtag, Regretting Motherhood, qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent échanger bah, sur cette fameuse notion bah, de ne pas avoir envie d'être maman. Voilà. Ou du moins de regretter de l'être. Voilà, parce que ça a ouvert les deux voies. D'un côté, ça a ouvert la parole aux femmes qui n'ont pas envie d'être mères et qui maintenant osent dire bah, moi, en fait, j'ai pas envie de donner la vie, hein, désolé. Désolé étant à leur mari, conjoint ou autre, hein, c'est assez dans ce sens-là, le désolé. Et aux mères qui disent bah, moi, en fait, je l'ai fait parce qu'on m'a un peu mis la pression, parce que dans ma famille, on me disait qu'il fallait que je sois maman, parce que c'était comme ça, parce que l'ordre sociétal est fait comme ça, parce que la société tourne comme ça. Et en France, en fait, l'étude, elle a fait l'effet d'un petit cheveu sur la soupe, en fait. Elle est apparue, en fait, à un moment un peu incongru d'un point de vue chronologique. C'est un peu un anachronisme. Parce qu'en ce moment, on est dans un contexte opposé. C'est le débat pour la PMA pour toutes, c'est le débat pour le droit à l'enfant, c'est le débat pour l'adoption des couples homosexuels, c'est le débat pour les mères porteuses, même, qui est un débat qui commence à rentrer dans le débat, dans la sphère publique. Et en fait, on veut plus d'enfants et toujours plus d'enfants en France. Et en fait, cette étude, et bah, du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, bah non, on va pas en parler parce qu'elle va pas elle dans l'autre sens. Elle dessert d'autres causes. Sauf qu'on parle pas du tout de la même chose, encore une fois. Personne ne dit, aucune femme ne doit être mère. Ce que dit l'étude, c'est, on doit se demander si on a envie de l'être. C'est pas tout à fait la même chose, quand même, hein. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant. Et par contre, il y a une chercheuse qui s'appelle Marie-Thérèse Le Tablier, qui est une chercheuse au CNRS en France, qui elle dit, elle a été très surprise en découvrant l'article de son homologue, et extrêmement surprise en fait parce qu'elle dit, jamais à ma connaissance, nous nous sommes posé la question en termes de regret. C'est alors que ça fait partie de la sociologie. Cela m'a mise mal à l'aise. Pourquoi n'avons-nous pas abordé la question sous cet angle? C'est-à-dire qu'elle dit depuis des siècles. Tout est normal et une mère ne doit jamais être interrogée en tant que mère. Il y a la question du désir. Alors, on va rappeler que l'étude est israélienne. Donc, en Israël, la mère, c'est une figure majeure, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a une politique nataliste qui est affichée par le gouvernement israélien. Et dans certaines traditions juives, pas toutes, c'est par la mère que l'on devient juif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une mère juive pour devenir juive. Donc, dans certains milieux orthodoxes, dans certains milieux un peu conservateurs israéliens, la mère, elle est quasiment déifiée. Alors, attention, elle n'est pas sur un piédestal et elle n'a pas une place vraiment. Non, c'est juste qu'il faut qu'une femme, ça enfante. Hein. C'est ça que ça veut dire quand on dit elle est déifiée. Hein. Et donc, en fait, elle dit, la chercheuse donc, qui a fait l'étude, elle dit, bah, quand l'injonction de la maternité est publique, on accepte son revers plus facilement, le regret. C'est pour ça qu'en fait, elle a pu faire son étude en Israël. Parce qu'elle dit, il y a une telle poussée qui est faite pour la natalité et pour le rôle des mères, que du coup, ça était plus simple pour elle de l'interroger dans une société comme celle-ci. Alors que dans nos sociétés occidentales, disons plutôt de l'Ouest, c'est-à-dire en la France, enfin toute l'Europe, même si elle dit qu'en Europe de l'Est, c'est un peu comme en Israël. Mais sur la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, c'est des choses qu'on n'a jamais interrogées parce qu'on a toujours été dans une vision nataliste des choses, mais au sens, bah, la femme doit et être l'égale de l'homme, mais quand même être une bonne maman. Donc là, elle dit, c'est un fait, c'est un non interrogé de nos sociétés. Et donc, elle explique que en Allemagne, par exemple, la politique nataliste, elle s'essouffle parce que, elle ne fonctionne pas, parce qu'en fait, elle n'a jamais été interrogée autrement que si tu fais des enfants, tu restes à la maison et on te verse une sorte de pseudo loyer. Et donc, en fait, que le rôle de la le salaire par rapport au loyer. C'est donc que le rôle de la femme est réduit à être simplement une gestatrice, quoi. En fait, voilà, et à éduquer les enfants et basta. Et elle dit d'ailleurs, c'est dingue parce qu'en Allemagne, avec le hashtag qui est apparu, les mères qui osent dire moi je regrette d'être maman, ou celles qui osent dire je ne veux pas être maman, on les appelle les mères corbeaux. Parce que les corbeaux tuent les petits de la portée qui sont en trop. Voilà. Vous voyez, donc c'est cynique, hein. Elle dit, c'est quelque chose d'assez dingue parce que, alors qu'on ne fait qu'exprimer une idée, on vous transforme en assassin, le mot d'après, quoi. Oui. Donc, elle explique aussi que, dans un pays comme l'Allemagne, qui a besoin d'enfants, contrairement à la France où la natalité est très élevée, en fait, le regret d'être mère, c'est inaudible pour la majorité des gens. Parce que se mêle un sentiment patriotique et nationaliste, un non-dit autour de la notion de « oui, mais si on fait pas d'enfants, on n'aura plus d'allemand ». Vous voyez, c'est un peu le truc qui se passe au Japon, d'ailleurs, en ce moment. Et elle dit « bah au fait, du coup, bah en Allemagne, on a décidé de ne plus jamais interroger ce modèle-là. Et donc, depuis l'arrivée d'Angela Merkel, eh ben, en fait, on revient à la politique familiale allemande, à l'ancienne, aux normes de parentalité traditionnelles, et on ne se pose aucune question. Voilà, maman, papa, des enfants, et point barre. Et d'ailleurs, ça va même très loin, parce que c'est en Allemagne que même les Verts, les Grünen allemands, proposent, ce qui est quand même proposé par le Front National en France, donc ça fout quand même la trouille, qu'on rémunère les mères au foyer, c'est-à-dire que ça devienne un métier à part entière, c'est-à-dire qu'on ne met plus une allocation des 3 premières années, le temps que les enfants puissent aller à l'école. D'ailleurs, en Allemagne, c'est les 6 premières, parce que l'Allemagne est obligatoire, l'école est obligatoire à partir de 6 ans, mais on les mettrait à vie au foyer avec une sorte de revenu universel, hein, parce qu'elles ont été des bonnes mamans. Donc c'est quand même une vision très archaïque des choses, quoi. Donc on voit que cette question du regret, elle va interroger beaucoup plus large que simplement l'individu, elle va interroger la société aussi. Et donc en fait elle dit, Orna Donat, elle dit que si son travail choque, c'est aussi lié à la place accordée à la maternité. D'accord. C'est-à-dire que elle dit la maternité dans le monde entier s'est présentée comme un royaume sacré, au-dessus du monde humain, du regret évidemment, et on espère le regret quand il fait suite à un crime ou à un péché. Sinon, il est vu comme une attitude émotionnelle négative, prétendument signe de faiblesse ou de défaite, un dysfonctionnement à surmonter rapidement. Mais elle explique en fait que ça n'a rien à voir. On a le droit de dire j'ai fait une erreur dans ma vie. Et elle donne un exemple. Elle dit: personne ne dira à un homme, par exemple, qui dit « je me suis trompé de diplôme, je fais pas ce que j'aime dans la vie. » Ah bah oui, t'as des regrets, c'est normal, tu peux les exprimer. Mais une femme qui dirait « bah moi en fait je voulais pas être maman, mais j'aime mes enfants, mais je me rends compte que c'était pas mon kiff. » Et ben là on lui dit « ah non, ça t'as pas le droit de le dire. » Pourtant, il n'y a pas une grande différence entre les deux, quoi. Vous voyez ? Donc, je trouve que l'exemple est très bon. Et elle dit, le sentiment de culpabilité de ne pas en faire assez pour ses enfants est plutôt bien vu. C'est-à-dire qu'une mère qui dit, oh, j'en fais pas assez, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut que ça va, ça c'est bien vu. Et ça montre le droit chemin. C'est-à-dire que notre société est construite comme ça. Par contre, le regret de l'ancien Scandinave Grata, alors c'est important parce que Grata, c'est les larmes en fait. C'est le fait de dire, de pas prendre le bon chemin. C'est pleurer quelque chose d'irrémédiablement perdu. C'est là ce que veut dire Grata. Et en fait, elle dit, bah oui, c'est ça qu'on exprime. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voulait pas être mère ou pour qui c'était pas fait, elle se retrouve à être maman, bah oui, elle regrette sa vie où elle n'était pas mère. Parce qu'évidemment, elle sait que c'était la vie qu'elle voulait. Et c'est pas indécent de l'exprimer. Encore une fois, on parle pas là de se débarrasser des enfants, hein. Juste d'exprimer le fait que, ben, mince, c'était pas pour moi. Donc c'est assez intéressant. Parce que elle explique en fait quelque chose d'assez drôle, c'est qu'elle dit la psychologisation de la société fait qu'on rejette le regret. Parce que le regret en psychanalyse, ça n'existe pas. Voilà. Donc elle dit, ben, du coup, les mères qui vont exprimer ça, on va dire, ah, vous faites une dépression. Alors que des fois, elles vont très bien. Au contraire, même d'ailleurs, elles vont bien depuis qu'elles le disent. Vous voyez, de dire, bah, j'ai identifié ce qui n'allait pas dans ma vie, c'est le fait que j'ai peut-être fait une connerie. Et ben, en fait, elle dit, dans notre société, même la psychanalyse va se liguer contre ces mères-là. Parce qu'on va dire, ah bah non, c'est pas bien d'avoir des regrets, c'est beaucoup plus fluctuant, c'est peut-être une période de ta vie, ça va pas être toute ta vie. Mais elle dit, ces personnes-là, elles savent ce qu'elles disent, elles sont pas folles à un moment donné. Et même si ça n'existe pas en psychanalyse, c'est quelque chose qu'on peut en société exprimer. Et elle dit, fondamentalement, ça indique quelque chose de grave, c'est qu'aujourd'hui, les droits acquis pour les femmes se retournent contre elles dans la sphère de la société. Eh ben oui, parce que le corps des femmes, aujourd'hui, on dit, dans la majorité des pays civilisés, comme on dit, enfin, ou plutôt évolués, c'est des écrits civilisés là, hein, c'est pas vrai. Elle dit, ben oui, il y a la pilule, il y a l'IVG, il y a les moyens de contraception, donc si on veut pas être mère, ben on peut ne pas être mère. Et si on devient mère, eh ben c'est qu'on a bien voulu, parce qu'après tout, t'avais qu'à te protéger, hein. Vous voyez, c'est un petit peu le truc, voilà. Sauf qu'elle dit, mais c'est trop facile de parler comme ça, parce qu'on oublie que parce que il y a ces méthodes-là, la pression de la société a augmenté comme jamais il n'a augmenté sur le dos des femmes. C'est-à-dire que non seulement avant c'était évident que les femmes seraient mères, il n'y avait pas de contraception. À partir du moment où la contraception est apparue, c'est à ce moment-là, depuis les années 70, qu'on a commencé à dire la maternité, c'est ce qui fait qu'une femme est vraiment femme. Et tu sais, c'est merveilleux, la maternité. Et un couple sans enfant, c'est pas un vrai couple. Et l'avenir ne peut se... Vous voyez, et ce discours-là, et notamment, elle le dit, il suffit de regarder les Walt Disney pour s'en rendre compte, hein, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Et ben, c'est un discours qui, en fait, a une énorme incidence sur le choix. Parce que c'est un non-choix, au final. Vous voyez? Et elle dit, finalement, la société, très souvent, pousse des gens à devenir mère quand elle ne le souhaitait pas, en fait. Voilà. Et vas-y. Non, vas-y. Je passe à autre chose après. Vas-y.
Non, mais enfin, bah, je voulais rebondir sur l'article. Enfin, mais vu que t'as pas donné toutes les infos, c'est peut-être pas non
plus.
Ah oui,
parce que c'est un article de Libé.
Non, c'est pas ça. Non. Je suis pas clair.
Pardon, non, t'es pas clair.
D'accord. Non, je voulais rebondir sur ton article, mais oui. Si t'as pas terminé, t'as ton article.
Non, vas-y. Non, ok, j'y vais. Alors, en fait, je termine sur un autre aspect. C'est justement le métier de parent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on était parents comme on pouvait. Et aujourd'hui, il faut être des bons parents. Voilà. Et elle dit, c'est normal d'être des bons parents, attention. Sauf que ça donne l'impression qu'il y a un métier de parent. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, on peut être déclassé. C'est-à-dire qu'on peut être viré de la parentalité. Et ben oui, parce qu'en fait, elle donne un exemple très concret. C'est qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, on peut voir ses enfants être retirés par le jugement d'un tribunal qui n'est pas un tribunal civil, mais qui est un tribunal religieux. Parce qu'on estime que vous êtes une mère trop émancipatrice. Vous voyez ? Eh oui. Et donc, elle dit, bah, du coup, il y a cette pression qui vient se mettre en plus. Et elle dit, alors, c'est pareil. On essaye de se mettre tous dans les meilleures conditions pour avoir un enfant dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on essaye d'attendre, d'avoir un logement, machin, tout ça. Alors qu'avant, on s'adaptait à l'enfant. L'enfant arrivait et puis bon, on se débrouillait. Et elle dit, bah, ça a vachement changé parce que du coup, l'exigence est beaucoup plus haute qu'auparavant. C'est-à-dire que, avant les années 70, c'est ce qu'elle explique, eh ben, quand une maman disait, le petit dernier, franchement, je m'en serais passé, quoi. Même si je l'aime, là, c'est trop. Bah, tout le monde trouvait ça normal. On disait, bah, oui, c'est pas grave. Bah oui, t'as fait comme tu avais pu, puis t'as pas été une mauvaise maman. Mais bon, c'est vrai qu'il est arrivé un moment où tu pouvais pas. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, on dit, bah, t'avais qu'à pas le faire. Vous voyez? Et c'est la petite différence qu'il y a. Et elle dit, c'est pas une différence anodine, c'est un changement de paradigme dans la société. Et donc, elle explique que, on nous vend, en fait, la famille, malgré tout ce qu'on sait, comme elle doit rester une source de bonheur. La maternité, source d'épanouissement. Elle est une étape indispensable à la féminité. Les femmes sont censées aimer ça. Il est impensable qu'elles le regrettent. Et elle dit, c'est tout ça qu'on met en face. Parce qu'en fait, on leur dit, bah, si tu voulais pas être maman, t'avais qu'à pas le faire. Mais c'est nier tout le poids, encore une fois, de la société, et y compris cette espèce de professionnalisation du parent. C'est-à-dire, le parent, il doit être hyper bon partout, il doit aider son gamin pour faire les devoirs, il doit aller le chercher à l'école à l'heure, il doit lui faire faire des sports et des activités, il doit répondre à toutes ses questions, il doit jamais se planter, vous voyez, c'est le truc. Et elle dit, au final, cette espèce de professionnalisation, parce qu'elle dit, on a des coachs en parentalité aujourd'hui, donc comme on a des coachs en entreprise, bah, elle dit, au final, bah, ça crée une autre forme de pression. Parce que si c'est si important, c'est que c'est incontournable. Vous voyez, c'est un peu le... Voilà. Oui, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et donc, voilà. Et donc, elle explique, enfin, les femmes qu'elle a interrogées, c'est par exemple Odélia, qui a 36 ans, dit, bah, elle, depuis qu'elle est toute petite, depuis ses 9 ans, elle sait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et puis, bah, en fait, elle a fini par être maman parce qu'en fait, on lui a dit, bah, une femme sans enfant, ce n'est pas une femme. Donc, en fait, elle a fait des enfants. Et après coup, elle s'est dit, bah, j'ai fait une connerie, en fait. Voilà. Mais elle a élevé ses enfants, elle dit, ses enfants, elle les adore, mais ça est un truc, voilà. Il y a Atalia, dont on a déjà parlé, elle dit qu'elle est devenue mère par automatisme. C'est-à-dire que, bah, elle a fait comme sa mère. Elle n'a pas cherché plus loin, elle a été mariée très jeune, et elle a fait comme sa mère, elle a fait des enfants, parce qu'il fallait faire des enfants. Et en fait, elle dit, bah, ces femmes qui détestent l'expérience de la maternité, elles soulignent un seul avantage. Une fois qu'on est maman, on est accepté par la société. Toutes disent ça. Une fois qu'on est maman, on ne nous pose plus de questions, on ne nous demande plus pourquoi on n'a pas d'enfant, on ne nous demande rien. Donc c'est assez intéressant, et je vais finir là-dessus, sur cet aspect-là. C'est qu'on voit qu'en fait, la pression sociétale, elle va très loin parce qu'elle oblige les mères, les femmes à devenir mères pour qu'on les considère comme des femmes dans la société. Et on voit bien que ce tabou-là, on devrait le faire sauter. Parce qu'une femme reste une femme, qu'elle soit maman ou qu'elle soit pas maman, et elle reste l'égale de l'homme, quoi. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, ben, elle est l'égale de l'homme que si elle a enfanté, en fait. C'est un peu ce qu'elles expliquent, c'est que toutes disent, elles ont eu un sentiment que tant qu'elles n'avaient pas d'enfant, elles étaient des grands enfants elles-mêmes.
Enfin oui, alors bon, j'ai pas mené son étude, mais oui, effectivement, enfin, il suffit de parler avec des amis qui sont nés avec un vagin entre les jambes et qui n'ont pas d'enfants, qui, admettons, ont dépassé aller la 35-40aine. On vous le fait bien sentir quand même, effectivement.
Que, ouais, la violence.
Bah,
ouais.
C'est-à-dire que, bah, qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait, si t'as pas fait de gosse. Mais, et que, alors, en tant que mec, on peut déjà la ressentir, parce qu'on va te dire, mais t'es pas papa à ton âge. Mais je pense qu'effectivement, la pression pour la femme, et parce que je pense que c'est encore très lié, peut-être que je me trompe complètement, mais quand même, on peut regarder dans plein de mouvements qui s'appellent religion, les rôles qui sont attribués aux femmes, etc.
Le patriarcat, hein, tout simplement. Parce qu'elle explique
exactement.
D'ailleurs qu'il y a il y en a deux qui sont issus de la société laïque israélienne, donc ils n'ont pas de religion, ou qu'il y a une religiosité, voilà. Mais le patriarcat suffit, c'est-à-dire que pour être un bon père, il faut avoir fait des enfants. D'ailleurs, il y a un grand regret dans cette étude de la part de la personne qui l'a menée, c'est qu'elle voudrait le faire sur les pères aussi.
Bah oui, parce que voilà. Finalement, c'est toujours encore les femmes qui, alors, elles doivent porter, elles doivent regretter, elles doivent tout faire.
Non, là, c'était l'angle de son étude, oui. Ça, mais elle va relancer l'étude sur les pères, parce qu'elle se pose vraiment aussi la question de se dire, bah tiens, finalement, est-ce que ça s'interroge pas aussi, quoi.
Ah, mais de toute façon, enfin, il y a qu'à voir, même en faisant partie de la communauté LGBT, on sent bien que maintenant, la normation devient celle d'avoir des enfants, de créer sa petite famille, parce que c'est le bonheur absolu. C'est-à-dire que jusque-là, on nous faisait penser que notre sexualité était le frein, en fait, de notre vie. Là, maintenant, c'est le fait de pas avoir d'enfants, en fait, qui est le frein de notre vie. Donc, bon, en fait, je pense qu'à partir du moment où vous refusez cette société, effectivement, familiale, etc., nataliste, vous serez très vite classé comme un peu problématique.
Mais c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, dans l'étude, vraiment, c'est que c'est la première fois vraiment qu'on interrogeait cette notion de regret et qu'on l'interroge aussi directement. Parce que c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que quelqu'un a osé poser la question directement et pas en tournant autour du pot en disant « Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ton rôle de maman, tu t'y fais ?» Voilà. Non, est-ce que tu regrettes ou pas d'avoir fait des enfants? Et c'est important parce que, comme elle le soulignait, si on ne s'interroge pas sur cette notion-là, en fait, on ne va pas au bout de la libération des femmes. Voilà. On s'arrête au mi-chemin. Et elle dit, c'est quand même emmerdant, hein. Comme elle le dit, comme disait une des personnes interrogées, elle dit, c'est quand même emmerdant que le féminisme n'ose pas se poser cette question. Voilà.
Effectivement.
Alors, elle parle en Israël, hein, parce que c'est pas forcément vrai partout, ça.
Effectivement. Mais voilà.
Eh ben, musique. C'est bien la causerie sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Et tu viens d'entendre Tarja Turunen qui reprenait Goldfinger, le célèbre générique de James Bond qui était à l'époque interprété par Shirley Bassey. Et donc on va continuer. Jean-Yves, tu voulais nous parler des morts au travail, parce qu'il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup.
C'est ça, tout à fait. Alors en premier, enfin tout d'abord, c'est l'Organisation internationale du travail qui au mois d'avril en fait 2016, hein, effectivement, parlait de santé et de sécurité au travail et rappelait que toutes les 15 secondes, à travers le monde, un travailleur ou une travailleuse meurt d'un accident ou d'une maladie liée au travail.
Bah, c'est pas beaucoup donc.
Non, c'est ça, toutes les 15 secondes, effectivement.
Ah, c'est énorme.
Ça rappelle aussi que toutes les 15 secondes, il y a 153 travailleurs qui sont victimes d'un accident lié au travail à travers le monde, encore une fois.
Une mutilation, donc.
C'est ça. Donc, chaque jour, c'est 6300 personnes qui meurent d'un accident de travail ou d'une maladie liée au travail, soit plus de 2,3 millions de morts par an. Voilà, voilà. Le travail, c'est la santé, qui disait.
Mais rien faire, c'est la conserver.
C'est ça. C'est ça qu'il faut pas qu'on oublie. Et donc, la plupart des 300, enfin, c'est ce message de l'OIT qui rajoute, la plupart des 315 millions d'accidents qui se produisent chaque année résultent en des absences prolongées du travail, forcément. Et donc c'était une très courte info. Et ensuite je suis tombé sur un article en fait de Bastamag qui date, qui est connu maintenant dans pas mal de sphères. Bastamag qui date de juin 2016 et qui justement revenait sur ces morts au travail. Alors plus spécifiquement sur les morts au travail en France en fait. Et en rappelant que chaque année ce sont 500 personnes en France qui succombent d'un accident sur leur lieu de travail et que face aux questions de familles de victimes, les directions d'entreprises évoquent la malchance, voire même l'inattention du salarié lui-même, hein, évidemment.
C'est jamais la faute du patron.
C'est ça. Alors que l'organisation du travail ou l'insuffisance de la formation sont en cause. Quand même, quand il y a un accident de travail, c'est quand même ça. Et devant la justice, les dirigeants d'entreprise s'en tirent souvent à bon compte, dissimulés derrière un système de sous-traitance qui leur permet d'échapper à toute responsabilité, évidemment, là aussi. Et l'article s'interroge, les magistrats peinent aussi à considérer des faits comme ces faits-là comme une forme de délinquance et se demandent donc à quand la fin de cette impunité. C'est un article qui retrace vraiment pas mal de choses, hein. Donc je vais essayer de vous en relater pas mal, enfin quelques morceaux quand même. Donc là, c'est les parents d'un gars qui est décédé, qui est mort au travail, qui disent déjà que c'est pas la guerre, que on va pas au travail pour y crever, quoi. Parce que en fait, leur fils, il est mort il y a un an, c'était en avril, un peu plus d'un an maintenant. C'était en avril 2015 dans une usine classée Seveso. Le patron, vous les connaissez sûrement, ça s'appelle ArcelorMittal. Et c'est donc en périphérie de Dunkerque. Et donc leur fils, Daniel, hein, c'était la seconde victime de chez ArcelorMittal, hein, dans cette année-là. Et en tout, chez Arcelor, il y a eu 4 morts en un an sur 2 sites du groupe. Et dans le cas de Dunkerque, là, que je vous évoquais, la famille qui porte plainte contre X, ce sont les seuls à porter plainte. Parce que eux, ils tiennent absolument à ce que les entreprises soient tenues pour responsables. Mais c'est bien plus compliqué que ça, en fait. Et que justement, c'est un peu toute l'idée de cet article, c'est de revenir aussi sur toutes ces difficultés que rencontrent les gens pour faire reconnaître tout ça, c'est-à-dire que l'accident n'est pas dû à une malchance, mais à un manque de bienveillance, dirons-nous, de la part des patrons. Et je continue avec mon article. Donc peu de familles, hein, c'est ce que je disais avant, confrontées à ce cas-là, à des tels drames, ont la force de demander des comptes ou d'interpeller les directions de grosses entreprises. Et évidemment d'affronter leur armée d'avocats, parce que on est quand même dans ce truc-là, hein, et que finalement quand on a un décès violent on prévoit jamais la mort, mais qui est pas du tout, on va dire, dans l'ordre du temps, on pense pas forcément à ça et on n'a pas envie de se dire on va réclamer une reconnaissance ou de la thune pour notre mort, parce qu'en plus, je pense que les gens vont avoir une forme de... Ils vont s'en vouloir de penser à de la thune ou à une reconnaissance du drame qu'ils ont vécu.
Ils jouent là-dessus. Hein,
bah, bien évidemment. Et donc, c'est ce qu'ils disent, c'est que bah, ce sentiment est alimenté par un flagrant déni de justice qui règne en la matière. C'est à peine 2% des employeurs qui écopent d'une peine de prison, généralement du sursis, pardon, et les condamnations souvent se limitent à une amende. Souvent au prix d'un éprouvant combat effectivement judiciaire pour les familles. Et il rajoute justement, cette famille dont je vous parlais, que ça va, enfin elle le dit, c'est que ça va être très très dur, parce que pour eux, donc pour le patronat, nous ne sommes que des ouvriers, mais c'est tout ce qui nous reste, rajoute-t-elle. Donc voilà, je peux vous citer encore un autre cas, hein, c'est un cas où certains... Bah justement pour ah non c'est pas un autre cas, c'est toujours le même cas, Daniel, en fait certains disaient qu'en fait il avait perdu, enfin il jouait avec son portable, en fait il s'est fait distraire, enfin il s'est laissé distraire avec son par son portable, ce qui fait qu'il lui arrivait un truc. Alors en fait la police qui a mené un peu quand même son truc, elle a retrouvé son portable en fait dans la boîte à gants, donc il ne l'avait absolument pas sur lui, et la famille précisait enfin que leur fils n'était pas un casse-cou, c'était un gars sérieux, tous ses collègues l'ont dit, et s'il n'était pas au bon endroit ou s'il a fait une erreur, c'est qu'on ne lui avait pas dit. Et évidemment, les directeurs de la boîte d'intérim, parce que tout ça s'est passé évidemment en tant que statut intérimaire, et le sous-traitant, ils se sont présentés quand même au domicile des parents. Ils l'auront quand même dit, on ne comprend pas, il n'avait rien à faire là. Donc ce qui veut quand même dire, ce n'est pas notre faute, c'est de la faute à
c'est
celui qui est mort.
C'est sa faute à lui.
C'est ça. Et donc derrière, il y a un élu, il est élu CGT, pardon, au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail, CHSCT, ça doit vous parler. Lui dit, effectivement, de toute façon, ils attendent toujours qu'un incident grave se produise pour changer leur politique, en fait. Et puis il va continuer, il dit que en juillet 2015, il y a eu la mort de Jérôme Domaerel. Je vais vous quand même vous le donner, hein. Son corps a été dissous en fait dans une tranchée remplie d'acier en fusion. Voilà, Arcelor a finalement installé une protection pour empêcher toute chute dans une rigole de fonte. En fait, 10 jours avant ce drame, il y a un intérimaire qui a été victime d'un malaise, qui était tombé à quelques mètres en fait de ce liquide un petit peu chaud, c'est-à-dire plus de 1200 degrés. Et en fait, le CHSCT avait alors signalé l'absence de barrière. Enfin, je veux dire, quand même, t'as un liquide en fusion à 1200 degrés, il n'y a aucune protection autour. Et en fait, ce que Basta a pu trouver comme document aussi, c'est qu'en fait, ces défaillances techniques et de sécurité ont été signalées depuis 2001, en fait.
Il ne faut pas croire, en fait, c'est que souvent les CHSCT, ils font très bien leur travail, mais les employeurs freinent des cas de fer. Et si on n'a pas derrière un inspecteur du travail un peu grognon, on va dire, un peu pugnace, bah, on pisse dans un violon, quoi. Malheureusement.
C'est ça. Je vais essayer de continuer un petit peu plus vite, peut-être. On a le cas de, enfin, donc, de, le cas de Daniel est de loin pas isolé, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y en a un, ça a été un cas à Aix-en-Provence. Très parlant, ce cas aussi. C'était en décembre 2011. C'est un technicien expérimenté de 55 ans, Jean-Claude Lachaud, on va le citer, qui a chuté de 5 mètres alors qu'il réalisait une maintenance en haut d'un poteau téléphonique. Il meurt en soins intensifs après 3 semaines d'atroces souffrances, hein, évidemment. Et son employeur, Orange et France Télécom, évoque une mort naturelle, jusqu'à ce que l'autopsie stipule qu'il a succombé à ses blessures. Orange est jugé responsable de l'accident en février 2016 et est condamné à verser 50 000 euros d'amende pour homicide involontaire. La veuve dit, ils se croient au-dessus des lois, en fait, ces gens-là. C'est un manque de respect envers nous, envers mon mari, envers tous les employés. Et elle en veut à Orange d'oser, comme elle le dit, d'oser faire appel de la condamnation. Donc voilà, hein, vous venez de perdre quelqu'un, il faut encore continuer de vous battre pour vous faire vraiment reconnaître que c'est pas normal.
Ça peut prendre 4 à 10 ans très facilement, hein, avec les appels et les cassations, la Cour européenne, ça peut être très très long. En fait.
Et donc pour revenir sur cette idée de sécurité au travail, etc., bah justement le cas de cette personne, donc de Jean-Claude Lachaud, hein, je le répète, Il est parlant parce que en fait il avait utilisé contre son gré, sur ordre de son chef, une échelle dite plateforme extérieure. Dans le jargon, c'est une PFE en lieu et place d'une nacelle classique. Ok, bah lui en fait, pendant des années, le CHSCT, l'inspection du travail, avait multiplié les mises en garde sur la dangerosité de ces équipements peu fiables. Plusieurs accidents s'étaient déjà produits. Et en fait, en imposant ces PFE, donc ces plateformes extérieures, et ben en fait, l'ex-France Télécom Orange essayait de, enfin, contourner une directive européenne pour tenter d'économiser 20 millions d'euros, hein, quand même, parce que c'est l'estimation qui a été faite par le syndicat Sud PTT. Et ben, bizarrement, au lendemain de l'accident, Orange a finalement retiré toutes les plateforme externe. Donc, comme quoi, toujours et encore, il faut continuer de se battre, parce que finalement, qu'on crève au travail, les patrons s'en tapent quand même plutôt pas mal.
Ça fait partie des pertes et profits.
C'est ça.
Ni moins, c'est calculé et on fait tout est prévu.
Bah, surtout, oui. Alors après, encore une fois, on a des différences entre peut-être le boulanger du coin et une grosse entreprise de BTP et bien d'autres, qui finalement, eux, effectivement, je pense que eux sont peut-être encore plus armés. Parce qu'ils ont ils ont du pognon.
Oui, ils ont du pognon, puis surtout ils ont la sous-traitance. Oui. C'est-à-dire qu'ils font reposer en fait les risques sur des toutes petites entreprises. La plupart des PME et des TPE aujourd'hui travaillent pour des grands groupes, mais en réalité votre patron c'est la PME ou la TPE. Donc si vous mourrez au travail, c'est contre le patron de la TPE ou de la PME qu'on va se retourner, et pas contre le donneur d'ordre, pas contre la grosse boîte. Et au final, que la PME ferme, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils se sont protégés.
C'est
donc
ça.
Voilà.
C'est ça, parce qu'ils ils reviennent justement sur cette notion de sous-traitance, en fait, en rappelant que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, en fait, les grosses entreprises ou les premiers donneurs, on va dire, d'ordre, en fait, sont jamais inquiétés. Vraiment jamais inquiétés. Je peux prendre,
ça me rappelle ce dont tu parlais avec les livreurs à vélo.
Oui, très bon exemple. le fait de demander aux gens d'être auto-entrepreneurs, par exemple, en livrant des repas, tout ça, sur l'arrondissement, sur la presqu'île lyonnaise, vous devez vraiment bien savoir ce que c'est.
Villeurbanne maintenant.
Villeurbanne aussi. En fait, le patron, on va les citer, Deliveroo, Take It Easy, Foodorama, toutes ces merdes-là, en fait, externalise. En fait, tout. C'est-à-dire que si, admettons, une de ces personnes meurt sur son vélo,
Il est auto-entrepreneur.
Il est auto-entrepreneur. Donc, que ce soit les premiers noms qu'on vous a donnés, Deliveroo, toutes ces merdes-là, n'ont absolument aucun problème. Qu'en fait, ce n'est pas de leur domaine, en fait, la sécurité du mec qui est auto-entrepreneur sur son vélo.
Ou si quelqu'un se mutile, parce qu'on parle de gens qui font du vélo au milieu de la circulation.
Oui.
Un accident est vite arrivé. Imaginons que quelqu'un se retrouve avec une patte folle ou avec un bras un peu handicapé. En fait, il est auto-entrepreneur, donc c'est généralement des étudiants qui font ça. Vous venez de griller toute votre vie, en fait.
C'est ça.
C'est concrètement ça, parce que vous n'avez pas le droit à des rentes, parce que vous n'êtes pas sous le régime général de la sécurité sociale, parce que vous n'êtes pas dans la caisse des accidents du travail. Et donc, en fait, au final, vous venez de rendre service, malheureusement, à un patron, quoi.
C'est ça.
Sur votre dos.
Oui. Donc voilà, cet article, il est très long, on va pas traîner trop longtemps.
On va pas faire comme moi qui fait trop long.
non, c'est pas ça, mais c'est... Donc voilà, c'est vraiment revenir sur cette notion, effectivement, des accidents du travail, du boulot,
des CHSCT.
Merci. Et aussi, effectivement, de ce manque de reconnaissance des morts du travail, des malades du travail. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir tout ce qui peut se passer autour de l'amiante, autour des personnes qui posent le macadam, etc. Ces gens-là, en fait, ils meurent très souvent, beaucoup plus tôt que la moyenne.
Et les éboueurs aussi.
Les éboueurs aussi, sauf qu'en fait, on n'a absolument aucune reconnaissance de l'insalubrité du travail ou de la dangerosité du travail, quoi.
D'ailleurs, je vais être très cynique avec les éboueurs, mais je vais rappeler une chose, c'est si le patronat ne s'est pas opposé à ce qu'on rehausse le départ à la retraite des éboueurs, qui est à 55 ans aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent qu'en moyenne, ils meurent à 57 ans et qu'ils ne voulaient donc pas qu'ils meurent sur leur lieu de travail. Voilà, vous avez fait le lien.
Voilà.
Et que ce soit reconnu comme maladie professionnelle, oui. Le cynisme n'a pas de limite.
C'est ça.
Et juste rappeler aussi que dans des boîtes où vous n'avez pas de CHSCT, à partir du moment où vous êtes 10 salariés, vous avez le droit de demander des délégués du personnel qui se retrouvent à avoir du coup le même rôle que les CHSCT dans le code du travail. Voilà.
C'est bon à savoir.
Renseignez-vous.
Effectivement, et encore une fois, je ne suis encarté dans aucun syndicat, mais je ne pourrais pas cracher sur la nécessité des syndicats. Alors effectivement, qu'ils ne soient pas des gentils toutous qui suivent un gouvernement, mais reconnaissons aux syndicats qu'ils ont pu permettre aux salariés de sortir un peu de la merde dans laquelle on était, et aux salariés eux-mêmes. Hein, mais,
oui, aux syndicalistes, en fait. C'est souvent des salariés qui se battent, tout simplement. Hein.
Donc voilà, donc renseignez-vous, et puis voilà, la lutte contre le patronat ne cessera donc pas tant qu'on n'aura pas brisé les chaînes.
Et virer les patrons.
Enfin, c'est ça. Et alors, vu qu'il n'y a pas énormément de brèves, ce que je vous propose, c'est que je vous donne vite fait la seule brève que moi j'ai, c'était la permanence juridique. Je vous l'ai déjà rappelé la semaine dernière. Elle a lieu tous les lundis soirs. C'est de 18h30, je crois bien, à 20h ou 20h30. C'est toujours au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyon, c'est-à-dire à la Lutine.
Oui.
Et ben voilà, je crois que c'est tout en news.
Ben ouais, moi je vais répondre aux 2-3 questions qu'on a eues. Est-ce qu'on est là cet été ? Oui, tant qu'on est là. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a du monde pour faire l'émission, bah, a priori, elle se fera.
Il n'y aura pas de pause qui excédera qu'un jour ou 3 semaines. Quoi.
Oui, voilà, pas plus que ça.
On n'est pas assez riche pour partir aussi longtemps.
Exactement, c'est pas faux. Et sinon, dire aussi qu'on prépare une émission, on ne sait pas quand on la fera, mais on vous fera une émission autour d'un chanteur qu'on aime bien et qui a servi de générique à l'émission pendant quand même presque 2 ans, qui est Bobby Lapointe.
C'est ça.
Ça viendra. Mais on vous dit pas quand, parce qu'on sait même pas nous-mêmes.
C'est ça. Donc oui, parce que je me suis quand même fait cette remarque. Je me suis dit, tiens, si on reste là tout l'été et que toutes les semaines on va venir dire aux gens le monde va très mal, je me dis c'est quand même une sacrée punition des gens qui sont trop pauvres pour partir en vacances, mais qui sont obligés de continuer à avoir l'horreur du monde. Alors bon, je vous dirais bien, on se déplace tous sur les plages pour faire chier les vacanciers, leur rappeler l'horreur du monde. On n'a pas les moyens, donc ce qu'on va essayer de faire quand même, c'est de temps en temps
Des petites
respirations, voilà. Parce que merde quoi, on a déjà pas assez de thunes pour partir en vacances, on va pas encore ramasser plus de merde que les autres. Pas déconner. Voilà.
C'était le coup de gueule de Jean-Yves.
Bah ouais hein. Bah c'est aussi un peu ça hein. Enfin bon, on se fait des bisous tout ça, non, parce qu'il est l'heure.
Et Clara, tu as choisi le dernier titre. Et c'est quoi donc? Réveille-toi, Clara.
Clara, je suis là. Et on se quitte avec Chacun pour soi de Guideray.
Ah bah, et ben voilà.
Un peu de cynisme pour finir cette émission.
Bonne soirée, bonne nuit, bisous et à la semaine prochaine.
Et bon courage. Salut, salut.
Ciao.
Ciao.
Cette astérilité, tout le monde s'en fout. Autant que des bouts de verre coincés dans ton genou. Personne n'en a non plus grand chose à faire. Que ce soit bizarre d'apprendre que ton père c'est ton frère. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi et personne pour toi. La 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 la. La la la, la 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 la. En vrai, ton overdose dans les toilettes du bistrot. Au pire, ça perturbera juste l'apéro. Et tu peux pleurer parce que t'as vu tes enfants mourir. Nous, tu sais, ça nous empêche pas de dormir. Tu sais, dans la vie, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi et personne pour toi. La 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 la. Alors avant de nous accabler de ta tristesse, demande-toi avant si ça nous intéresse. Et tu verras que bien souvent la réponse à ta question, chacun pour soi, c'est chacun pour soi, et personne pour toi. La 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 la.
Nation Radio Canus en 2.2.